Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Emmanuel Macron ne veut pas diviser le pays. En déplacement aujourd'hui dans les Hauts-de-France, le président sortant se dit prêt à bouger sur sa réforme des retraites. Marine Le Pen était dans Lyon ce lundi à la rencontre d'un agriculteur, la candidate RN centrée sur le pouvoir d'achat. Nous avons suivi les deux finalistes de la présidentielle. À qui va aller le vote Mélenchon au second tour? Éléments de réponse et reportage à suivre en Seine-Saint-Denis où le candidat insoumis a obtenu plus de 49% des voix. Un compte à rebours en Ukraine avant un assaut de l'armée russe dans l'Est. Les Ukrainiens qui se préparent aussi à la chute de Mariupol. On retrouvera sur place notre envoyé spécial. Des trains qui vont moins vite mais qui coûtent surtout moins cher. La SNCF a lancé aujourd'hui son offre de Ouigo lent. Explication dans quelques minutes. La météo, ce sera encore une belle journée printanière mais avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'Ouest. Notre invité politique à 22h20 au lendemain du premier tour, nous serons avec Prisca Thévenot, porte-parole du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Et puis, avant la libre antenne, les unes de la presse demain matin.
Europe 1.
C'est donc le même duel qu'il y a 5 ans qui se rejoue pour cette campagne du second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen n'ont pas perdu un instant pour s'engouffrer dans cette campagne du second tour. Les deux candidats sont retournés sur le terrain dès ce lundi. Le président sortant dans les Hauts-de-France, où le vote Marine Le Pen est important. Vous l'avez suivi pour Europe 1, Arthur Delaborde. Emmanuel Macron qui se dit prêt donc à bouger sur sa réforme des retraites.
Oui, Emmanuel Macron sur le terrain pour tenter de rassurer, notamment sur la question des retraite, il s'est dit prêt à ouvrir la porte à un report de l'âge de départ à 64 ans plutôt qu'à 65 s'il y a trop de tensions et que cela peut bâtir un consensus, l'occasion aussi d'attaquer sa rivale.
Le niveau des retraites, moi je regardais aussi le programme de Mme Le Pen, elle ne permet pas de l'augmenter. Et d'ailleurs, comme elle n'explique rien, qu'elle dit au fond aux gens, dormez braves gens, moi je ne toucherai pas l'âge légal, voire elle proposait il y a 5 ans 60 ans. Elle n'explique pas aux gens comment elle le finance.
Et pour convaincre ceux qui ont voté Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ou qui se sont abstenus, il promet d'ajuster son programme.
Maintenant, je veux convaincre. Et je veux convaincre aussi des femmes et des hommes de sensibilités diverses. Pour convaincre, je dois rassembler. Et pour rassembler, je dois entendre et donc compléter le projet qui est le mien. Et avoir une méthode qui ne peut pas être celle d'il y a 5 ans.
Emmanuel Macron qui n'a pas donné de détails sur les mesures qu'il pourrait intégrer à son projet, se contentant de citer les thèmes de l'écologie et du travail.
Arthur Delaborde dans les Hauts-de-France pour Europe 1. Emmanuel Macron est donc prêt à bouger sur sa réforme des retraites. On interrogera à ce sujet tout à l'heure à 22h20 notre invité politique Prisca Thévenot, la porte-parole du candidat En Marche, de la porte-parole de LREM. Marine Le Pen, elle, a choisi de se tourner vers le monde agricole. Ce lundi, la candidate RN a rencontré un exploitant céréalier à Soucy dans l'Yonne. Déplacement consacré aussi au thème central de cette campagne, celui du pouvoir d'achat. Victor Chabert, vous avez suivi aujourd'hui Marine Le Pen qui a livré bataille à distance sur ce thème avec son adversaire.
En effet, cette visite était vraiment l'occasion pour Marine Le Pen de marteler ses mesures pour le pouvoir d'achat, notamment la baisse de la TVA sur l'énergie, essence, gaz, fuel, mais aussi de proposer des mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation.
Il y a un autre nuage noir qui arrive sur la tête des Français et qui va être l'inflation des prix de l'alimentation. Il faut à tout prix envisager la mise en œuvre d'un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène avec une TVA à zéro.
Marine Le Pen a profité de cette visite dans la France rurale pour répondre à Emmanuel Macron. Il était, lui, dans le fief mariniste de Denain, dans le Nord.
Et qu'il aille à Denain pour voir les conséquences de 5 ans de sa politique, puisque Denain est une des villes les plus pauvres de France, eh bien j'espère qu'il en sera ressorti avec la conscience que sa politique a fait énormément de mal et que le pouvoir d'achat est une priorité absolue pour des millions de Français qui n'arrivent plus à faire face.
Marine Le Pen l'assure, ce déplacement improvisé n'est pas une réaction à celui d'Emmanuel Macron. Son équipe promet au moins un déplacement par jour jusqu'au second tour. Le match entre les deux candidats va être intense.
Victor Chabert dans Lyon pour Europe 1. Dans l'ombre des deux finalistes, Jean-Luc Mélenchon échoue une nouvelle fois aux portes du second tour, mais rien qui ne lui fasse perdre le sourire. Voici un échec en forme de victoire pour le candidat insoumis qui améliore son score de 2017, 21,7% des voix hier et qui compte bien capitaliser sur ce score pour prendre le leadership à gauche. Mais plus près de nous, en attendant, ce réservoir d'électeurs va être très disputé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pas une voix pour la candidate RN, a bien répété Jean-Luc Mélenchon. Mais cet appel sera-t-il entendu par tous ces électeurs? Vous en avez rencontré à Pantin, en Seine-Saint-Denis, Guillaume Dominguez.
Presque tous les riverains que j'ai rencontrés cet après-midi ont donné leur voix à Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Mais pour ce qui est du second, il y a plusieurs interprétations à la phrase du candidat insoumis. Pour Mélina, par exemple, Jean-Luc Mélenchon laisse entendre qu'il ne faut soutenir aucun des deux candidats. Elle votera donc blanc au prochain tour.
Moi, je pense qu'il ne donne pas de consigne spécifique pour voter pour M. Macron. Et j'en ai déduit que c'était plutôt un vote blanc.
A l'inverse, Hélène, elle, considère que Jean-Luc Mélenchon propose un choix à ses électeurs.
Mais j'ai compris qu'il ne fallait surtout pas voter pour Mme Le Pen, tout simplement. Hein ? Donc, alors, les gens font ce qu'ils veulent. Soit ils votent M. Macron, soit ils font un vote blanc.
Hélène m'a confié qu'elle allait s'abstenir au second tour, mais d'autres, comme Valérie, estiment qu'il faut renverser la table et fait donc le choix de passer d'un extrême à l'autre. Le 24, elle votera Marine Le Pen.
Parce qu'au niveau des opinions, il y a des choses que je ne suis pas du tout d'accord avec Macron, quoi. Puis tout ce qu'il a fait en 5 ans, je ne pense pas que ça soit du bon. Hein.
Les deux candidats au second tour ont donc à présent 15 jours pour séduire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon.
Et Guillaume Dominguez, les Républicains se demandent quant à eux s'ils vont pouvoir se relever du score de leur candidate Valérie Pécresse. 4,7%, c'est un coup de massue politique, bien sûr, mais aussi financier, puisqu'il lui aurait fallu au moins 5% pour le remboursement des frais de campagne, 7 millions d'euros. Valérie Pécresse n'a pas d'autre choix que de lancer un appel aux dons.
La situation financière de ma campagne est désormais critique. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine.
Les Républicains sont bien conscients que cette débâcle électorale peut signer l'arrêt de mort du parti. À la suite de Valérie Pécresse hier soir, Alexandre Chauveau, LR appelle ses sympathisants à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen.
Oui, avec une très légère nuance par rapport à 2017 où le parti avait appelé explicitement à voter contre Marine Le Pen. Cette fois, les Républicains envisagent la possibilité d'un vote blanc tout en martelant leur différence avec Emmanuel Macron. Un équilibre fragile mais qui a été adopté par une motion à une très large majorité. Christian Jacob, le président du parti.
Aucune voix ne peut se porter sur Marine Le Pen. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme ni dans le lepenisme. Il existe une autre voie, celle de la droite républicaine qui doit exister par elle-même pour éviter l'immobilisme, le laxisme et le recul de la France pendant 5 ans.
Christian Jacob qui a indiqué qu'il voterait pour Emmanuel Macron, tout comme Valérie Pécresse ou Rachida Dati. À l'inverse, Éric Ciotti ou Julien Aubert, eux, ne voteront pas pour le président sortant. Les Républicains sur une ligne de crête ont désormais les yeux rivés vers les législatives, car en cas de nouvelle défaite, le parti pourrait être sérieusement menacé de disparition.
Alexandre Chauveau, le candidat écologiste Yannick Jadot se retrouve dans les mêmes difficultés financières. Dès hier soir, prenant acte de son score de 4,6%, il a lancé lui aussi un appel aux dons pour renflouer son parti Europe Écologie Les Verts, qui a dépensé un peu plus de 6 millions d'euros dans cette campagne. Un record pour les Verts, ELV qui doit trouver 2 millions d'euros dans les 5 semaines. La permanence de ELV à Nantes a été visée par des jets de projectiles et taguée du mot traître. Visiblement, pendant la soirée électorale, le parti écologiste condamne cette attaque et a porté plainte contre X. Et puis à Lille, c'est un local du parti communiste qui a été vandalisé hier soir, un peu plus d'une heure après l'annonce des résultats. Les auteurs reprochent au candidat Fabien Roussel d'avoir empêché par son maintien Jean-Luc Mélenchon d'atteindre le second tour. La Fédération communiste du Nord, là aussi, a déposé plainte.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
L'Ukraine se prépare à perdre la ville de Mariupol, assiégée et bombardée sans relâche depuis des semaines, tandis que dans l'Est, le Donbass, cible numéro 1 de Moscou. Selon le Pentagone, l'armée russe y renforce ses troupes. William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Les forces ukrainiennes se préparent à un assaut imminent.
Selon les services de renseignement ukrainiens, l'attaque aura lieu très prochainement. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense ici à Kiev. L'armée russe s'est repositionnée et en partie régénérée après son retrait des régions du nord du pays. Les combats risquent d'être très durs, nous a confié Olga Stefanichina, la vice-première ministre ukrainienne en charge des affaires européennes.
Ça pourrait être une bataille historique pour le Donbass. Personne n'a de doute sur le fait que cette guerre va être d'une extrême intensité et selon nos informations, le début de cette offensive se compte désormais en heures. Nous croyons dans nos propres forces armées parce que les Russes ont peur de nous et ils ont raison d'avoir peur car nous sommes sur nos terres, nous avons notre peuple et nos familles à protéger.
Par ailleurs, à Marioupol, les forces séparatistes pro-russes revendiquent le contrôle de l'ensemble de la zone portuaire. Selon le maire de la ville, plus de 10 000 civils sont morts depuis le début du siège. L'armée ukrainienne le reconnaît elle-même. Marioupol est sur le point de tomber entre les mains des forces russes. Kiev, William Molinier, Europe 1.
La France décide d'expulser 6 espions russes identifiés à l'ambassade de Russie. Ils opéraient sous couverture diplomatique. Après une longue enquête, leurs activités se sont révélées contraires aux intérêts nationaux, indique ce soir le Quai d'Orsay. La DGSI a mis au jour hier une opération clandestine conduite par les renseignements russes sur notre territoire. 16 gendarmes français sont arrivés en Ukraine pour participer à l'enquête sur des crimes de guerre autour de Kiev. Leur première mission consistera à identifier les victimes, à déterminer les causes de leur mort. Selon la justice ukrainienne, plus de 1200 personnes ont été tuées dans la région de Kiev depuis le début de l'invasion. Pas de poignée de main aujourd'hui près de Moscou entre le chancelier autrichien et Vladimir Poutine. Karl Nehammer évoque une discussion difficile. Il est le premier dirigeant européen à être reçu par le président russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Le chancelier d'Autriche se dit pessimiste face à la logique de guerre de Poutine. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri passent leur première nuit dans la prison de Borgo en Corse. Les deux complices d'Ivan Colonna, condamnés eux aussi à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Irignac, ont été transférés ce lundi depuis la prison de Poissy, dans les Yvelines. Après l'agression mortelle d'Ivan Colonna, Matignon s'y était engagé, Frédéric Michel.
Oui, les deux hommes sont arrivés par un avion parti de Villacoublay ce matin. Ils ont atterri à l'aéroport de Bastia-Porretta à 12h45. Deux hélicoptères de la gendarmerie les ont ensuite déposés dans la cour d'une caserne jouxtant la prison de Borgo. Puis Alain Ferrandi et Pierre Alessandri ont été conduits à vive allure au centre de détention dans deux voitures aux vitres fumées escortées d'un véhicule de gendarmerie. Un imposant dispositif avec des hommes lourdement armés avait été mis en place. Thierry Casolasco préside l'association Solidarita depuis plus de 4 ans. Ses membres réclamaient ce rapprochement.
Enfin oui, mais ce n'est pas un cadeau. Il n'en manque qu'un à l'appel. Par respect aux familles, surtout à la famille Colonne, on ne va pas se réjouir. Si Ivan Colonne avait été rapproché, il ne serait pas mort.
Le transfert a été organisé dans la plus grande discrétion. À Borgo, les conditions de détention seront moins strictes qu'à la maison centrale de Poissy. Maxime Cousty, le représentant en Corse du syndicat pénitentiaire UFAP.
C'est celui individuel, ouvert la plupart du temps, toute la journée. Ils ont accès aux promenades librement.
Après 23 années passées en prison sur le continent, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri ont donc retrouvé leur et pourraient bénéficier prochainement d'un aménagement de leur peine.
Et Frédéric Michel à Borgo, en Corse, pour Europe 1. Le trajet en train, c'est déjà le voyage, si c'est votre façon de voir les choses, en tout cas. Et si vous avez du temps, eh bien vous allez aimer les nouveaux Ouigo lents inaugurés ce lundi par la SNCF. L'argument massue n'est donc plus ici la vitesse, mais le prix qui défie toute concurrence. Ces trains sont beaucoup moins chers. Aurélien Fleureau, évidemment, il ne faut pas être pressé.
Oui, effectivement, hein, puisque ces Ouigo sont en fait des trains corail modernisés qui circulent sur les voies classiques et non les voies réservées à la grande vitesse. Vous allez découvrir des trains roses qui s'arrêteront dans de nouvelles gares. Temps de trajet environ 5 heures entre Paris et Lyon, entre 3h30 et 4h15 entre Paris et Nantes. Vous paierez toujours le même prix que vous réserviez 2 mois à l'avance ou la veille du départ. Cela ira de 10 à 30 euros maximum, 5 euros pour les moins de 12 ans. L'objectif avec cette nouvelle offre est d'attirer des clients qui voyageraient d'habitude plutôt en bus ou en voiture. Alain Krakowicz, directeur de Voyage SNCF.
C'est 19 gares qui vont être desservies, 11 nouvelles gares, 4 en Île-de-France, 7 en province, qui n'avaient jamais connu du Ouigo. Au-delà du petit prix, c'est aussi une nouvelle offre pour de nouveaux clients.
Et cette nouvelle offre ne plaît pas à tous les cheminots. Certains ne sont pas très fans de la couleur rose flashy. Mais surtout, plusieurs syndicats de la SNCF ont dénoncé la création d'une filiale spécifique pour ce service, Oslo, qui demande plus de polyvalence et entraîne des conditions sociales revues à la baisse, selon eux. D'ailleurs, des militants de Sudrail ont perturbé le départ d'un Paris-Nantes aujourd'hui.
Aurélien Fleureau, ces Ouigo plus lents, donc en corail plutôt qu'en TGV, vous garantissent des prix fixes entre 10 et 30 euros le billet et même 5 euros pour les moins de 12 ans. Le temps pour ce mardi, Marlène Duret, on va commencer par le sud-ouest. Marlène, ça souffle fort déjà. Hein.
Oui, Météo France prévoit des pointes à 110-120 km/h sur le piémont de la Montagne Noire, du côté de Castres, vers le Lauragais, jusqu'à 100 km/h sur le Midi toulousain. Et une alerte orange est en cours dans le Tarn et en Haute-Garonne pour ces violentes rafales de vent d'autant qui n'a pas encore touché véritablement la région de Toulouse. Mais il y a moins d'une heure, on a enregistré une pointe à 112 km/h justement dans la région de Castres. Et le maximum d'intensité est attendu en milieu de nuit et demain matin. D'ailleurs, la vigilance orange sera prolongée jusqu'à 16h au lieu de midi. On a aussi une perturbation peu active qui va rentrer lentement demain par la façade atlantique. Quelques pluies, pas grand-chose. Donc, de la Bretagne et Normandie en allant vers l'Aquitaine. Ça peut déborder même un petit peu sur le Gers et les Hautes-Pyrénées. Ces pluies peuvent prendre aussi un petit caractère orageux sur la partie sud de l'Aquitaine en fin d'après-midi. On n'oublie pas les entrées maritimes pour l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales avec quelques averses possibles en journée. Ailleurs, c'est sec, mais nous avons le vent de sud-sud-est qui fait remonter le sable du Sahara. Encore une fois,
épisode 2. Bon.
Oui, mais moins prononcé, on va dire. Donc, sur tout le reste du pays, sur toutes les régions que je n'ai pas citées, en fait.
Donc, on ne relève pas sa voiture derrière, a priori. Ouais,
attendez jeudi.
On va attendre jeudi, quand même.
Pour certaines régions, nous, oui, vous pouvez jeudi, mais pour d'autres, il va falloir. Bon, alors, en tout cas, les températures sont bien là grâce à ce vent de sud. Comptez, allez, 14 degrés du côté de Cherbourg pour la mini. Ça monte jusqu'à 24 à Mulhouse et Grenoble. Nous aurons 20 degrés à Paris. Donc, ça, en général, les températures avoisinent 20 degrés au meilleur de la journée. Cette douceur va se maintenir cette semaine. D'ailleurs, jeudi, les températures seront dignes d'une fin mai. Et à vue de nez, le week-end de Pâques s'annonce ensoleillé.
Eh bien, décidément, on prend tout ce soir, Marlène Duret. Merci beaucoup. On vous retrouve pour un nouveau point météo
à minuit.
Dans un instant, ce sera Top à Wall Street. Et puis, notre invité politique, Prisca Thévenot, porte-parole dans quelques instants, porte-parole du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. À tout de suite.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Top à Wall Street sur Europe 1 avec Didier Hamot. Bonsoir Didier. De boursier.com, Didier, début de semaine difficile hein, à Wall Street sur fond d'inquiétude concernant l'inflation. Apparemment, on a un petit problème de micro, Didier. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, on va vous déplacer sur la droite.
Tout va bien.
Et vous allez nous redire tout ça. On parlait donc de ce début de semaine difficile à Wall Street sur fond d'inquiétude concernant l'inflation.
C'est vrai que ça va tout de suite mieux
cette fois,
avec
tout va bien.
Un micro. Voilà. Ouais, c'est plus pratique en radio. Le Dow Jones recule d'1,19%. Une forte baisse, hein, 34 308 points. Le Nasdaq cède 2,18%. 13 412 points. Les marchés attendent une nouvelle accélération de l'inflation avec l'indice des prix américains du mois de mars qui devrait ressortir à plus de 8% en glissement annuel. On aura le verdict demain. Évidemment, ça pèse sur la tendance à Wall Street. Le pétrole retombe aussi de 2%, $94,25 le baril WTI, le baril américain. Et Exxon est en baisse donc du coup de 3,5% à $84. Toutes les valeurs de technologie reculent nettement. Google, moins 3,3%. Amazon, moins 2,2%. On a Tesla qui perd pratiquement 5% à $976. Microsoft, moins 4%, $285. L'exception, c'est toujours Twitter, avec toujours beaucoup de spéculation dans le capital depuis l'arrivée d'Elon Musk autour de table. Twitter, plus 1,7% à $47. L'euro reste sous les 1,09, 1,0880 face au dollar.
À Paris, maintenant, les résultats du premier tour de la présidentielle ont eu peu d'impact sur la séance qui s'est terminée en légère hausse.
Une toute petite hausse, hein, plus 0,12%, 6 555 points, le CAC 40 donc progresse timidement. Les résultats du premier tour de la présidentielle n'ont eu effectivement que peu d'impact. En revanche, le secteur bancaire a été entouré après l'annonce du désengagement de Russie de la Société Générale. Le titre monte de 5%, 22,95 €. Il y a toujours les groupes d'armement hein, qui restent entourés en raison de la situation en Ukraine, évidemment. Dassault Aviation, plus 6%. Thales aussi gagne 2,5%. 123 € ce soir.
Exception du jour, Didier, le secteur du luxe hein, qui est en repli.
Ça reste très prudent sur le luxe avant l'annonce des comptes trimestriels d'LVMH. Ce sera demain soir. La situation en Russie inquiète évidemment les investisseurs et pèse donc sur l'ensemble des valeurs du luxe. On a LVMH, moins 1,8% ce soir. Dior, moins 2,2%. Hermès perd même plus de 3%, 1 252 €. Kering recule de 2,9% à €535. Les autres places financières sont en légère baisse. Milan, moins 0,3%. Madrid, moins 0,4%. L'Allemagne, moins 0,6% sur le DAX à Francfort. Le CAC 40 a gagné quand même 0,12%, 6 555 points.
Merci Didier Hamot. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Nous recevrons lundi prochain un soutien de la candidate RN. Ce soir, j'accueille Prisca Thévenot. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de La République En Marche, le mouvement du candidat d'Emmanuel Macron qui est donc arrivé en tête à l'issue de ce premier tour. Alors dès aujourd'hui, c'est donc une nouvelle campagne qui commence pour le président candidat Emmanuel Macron qui était aujourd'hui dans les Hauts-de-France, destination qui n'a pas été choisie au hasard. Ce sont des terres où le RN de Marine Le Pen est puissant. J'entendais d'ailleurs aujourd'hui Sébastien Chenu, député RN de la circonscription, qui trouve qu'Emmanuel Macron ne manque pas de toupet, c'est ce qu'il a dit, de venir fanfaronner à Denain. Comment vous réagissez à cette déclaration, Prisca Thévenot?
Écoutez, je pense que, je ne sais pas s'il faut vraiment commenter la prise de parole de Monsieur Chenu. Il faut rappeler que une candidature, quelle qu'elle soit, pour les présidentielles, s'adresse à l'ensemble des Français. Et il n'y a aucun territoire privilégié ou encore moins interdit à quelque candidat que ce soit. Et c'est fort heureux. Donc oui, le candidat Emmanuel Macron ira partout rencontrer l'ensemble des Français pour échanger avec eux sur leurs problématiques du quotidien, mais également leurs ambitions pour les 5 prochaines années.
C'est surtout sur le pouvoir d'achat aujourd'hui qu'Emmanuel Macron a été interpellé par la population dans les Hauts-de-France.
Oui, tout à fait. Le pouvoir d'achat est une des préoccupations principales des Français. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous avons énormément travaillé sur les 5 dernières années sur le pouvoir d'achat, sur un certain nombre de sujets, notamment sur les minima, sur également les personnes les plus fragiles, les travailleurs les plus précaires, notamment les personnes au SMIC. Et donc nous allons continuer sur cette logique-là, à permettre de protéger le pouvoir d'achat, mais aussi à travailler sur la mesure qui permet à chacun et chacune de voir son pouvoir d'achat protégé et augmenté, c'est permettre à chacun de trouver un travail qui paye bien, un travail qui paye mieux.
On a vu
et donc ça... Oui, pardon.
On a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronter à distance aujourd'hui sur cette question du pouvoir d'achat, Prisca Thévenot. En quoi le président sortant serait plus crédible sur ce thème que Marine Le Pen alors qu'il a justement été au pouvoir pendant 5 ans?
En fait, le sujet que nous avons aujourd'hui, c'est que on a une candidate, Marine Le Pen, qui essaie de nous faire croire qu'elle a un programme si simple qu'il en serait presque magique. Prenons un exemple, juste par exemple sur l'électricité, qui touche tous les Français et les Françaises en ce moment. Elle nous dit, d'un coup de baguette magique, que oui, il suffirait simplement de baisser les TVA. Mais en fait, en faisant ça, elle devrait aller au bout de son raisonnement et dire oui, ma proposition à moi, Marine Le Pen, c'est de baisser la TVA sur les prix de l'énergie. Et donc oui, moi, Marine Le Pen, j'assume d'être moins disante que ce qui est proposé par le gouvernement actuel, à savoir le bouclier tarifaire. Et donc je pense qu'il faut aller, il faut creuser. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle phase de campagne, comme vous l'avez très justement dit. Aujourd'hui, nous sommes des projets contre projets. Et donc nous devons creuser chacun pour voir où est la vérité des choses et où peut-être est un peu la formule un peu magique. Et les Français, quand il s'agit de leur quotidien, ils ont besoin de concret.
Autre déclaration d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Denain, Prisca Thévenot. Il est prêt à compléter et à enrichir son projet. Il est prêt à bouger sur sa réforme des retraites. Qu'est-ce que ça signifie? Il est prêt à infléchir sa réforme?
Alors, la réforme des retraites, déjà, rappelons-le, ce n'est pas qu'une simple réforme sur l'âge de départ à la retraite. C'est bien plus complexe que ça et bien plus évoluer que cela. Il s'agit effectivement de revaloriser les pensions minimum à 1100 euros, mais également de regarder sur les sujets des régimes spéciaux, parce qu'il faut que le système de retraite soit le plus juste possible et donc universel. Et donc, il l'avait déjà dit, il s'agit de mener des concertations, de mener des consultations pour évoluer sur ces différents chantiers et voir comment les ajuster et répondre au mieux aux attentes des Français et surtout de notre système de protection sociale qui, rappelons-le, est un trésor que nous devons tous chérir, mais pour le chérir, il faut le protéger.
Non mais concrètement, bouger sur la réforme des retraites, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer l'âge de départ qui est prévu dans le programme d'Emmanuel Macron à 65 ans?
L'âge de départ tel qu'il est proposé dans le programme aujourd'hui a été annoncé, sachant que c'est un âge de départ qui doit aussi pouvoir prendre en compte les carrières longues, mais ça je n'invente rien, le candidat lui-même l'a déjà évoqué la semaine dernière, et également par exemple les travailleurs en situation de handicap. Donc il y a différents âges qui doivent être pris en compte, mais encore une fois, il l'avait déjà dit lors de sa conférence de presse qui a duré plus de 4 heures avec l'ensemble des journalistes présents. Tout cela, ce sont les grandes lignes de la réforme qu'il souhaite mener s'il est réélu. Mais ces grandes lignes devront être débattues, devront faire l'objet de concertations et de consultations. Et quand on dit concertation et consultation, c'est bien évidemment pour intégrer certaines choses qui pourront arriver dans le cadre de ces débats.
De consultation, Emmanuel Macron n'exclut pas un référendum sur cette question. Quelle forme pourrait-il prendre ?
Un référendum prend la forme d'un référendum, je pense que...
Sur la formulation.
D'accord, ben je pense que très clairement, ça devrait aussi arriver à l'aboutissement de ces consultations et de ces concertations. Sinon, on passerait notre vie à faire des référendums sur chacune des lignes. Je pense qu'encore une fois, là, il a donné les grandes lignes. Mais ce qui est surtout important de retenir, c'est que sur le sujet de la réforme des retraites, Emmanuel Macron nous dit la vérité. Alors oui, il faut du courage pour dire la vérité, mais parce que ça fait plusieurs années, plusieurs décennies qu'on nous dit que ça va bien se passer. Eh bien oui, Emmanuel Macron a le courage de dire que oui, il se projette au-delà des 5 ans pour lesquels il veut se représenter, pour lesquels il souhaite être élu, parce qu'il en va de notre système de protection sociale. Et tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas pérenne. Donc c'est aussi projeter son action au-delà de son propre mandat s'il est réélu.
Je ne veux pas diviser le pays, dit encore Emmanuel Macron, qui va devoir envoyer donc des signaux de rassemblement à la fois aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, et à l'extrême droite. C'est une équation difficile, là, dans l'entre-deux-tours pour le président candidat.
Vous savez, c'est la démarche dans laquelle on est inscrit depuis 2016 au sein de La République En Marche et de la majorité réunie derrière Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas là pour porter des votes contestataires, mais des projets de conviction. Et des projets de conviction, eh bien, ça impose, ça suppose, ça oblige que nous apprenions aussi à nous retrouver sur certains sujets avec d'autres qui ne font peut-être pas partie de notre famille politique originelle. Est-ce que cela veut dire qu'on dilue nos convictions ? Pas du tout. Ça veut juste dire qu'on les réaffirme avec d'autres et que sur d'autres sujets, eh bien, on débattra fermement, on ferraillera très durement. Mais c'est ça aussi le dépassement. C'est apprendre de temps en temps à se dire que eh bien, c'est très bien si sur un sujet donné, on arrive à composer avec d'autres personnes d'une autre famille politique.
Plusieurs candidats ont appelé à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen, parfois à utiliser le bulletin Emmanuel Macron contre la candidate RN. Marine Le Pen a réagi aujourd'hui dans Lyon. Elle a dit « Le Front républicain, c'est une manière de se faire sauver quand on ne le mérite pas », Prisca Thévenot.
Je pense que Marine Le Pen nous prend tous pour des amnésiques. Je pense qu'il faut quand même dire les choses. Bien sûr, il faut confronter les projets l'un par rapport à l'autre. Et c'est ce qu'on vient de faire sur les premières questions de votre interview. Mais je pense qu'il ne faut quand même pas oublier qui est Marine Le Pen, c'est-à-dire quel projet porte-t-elle. Rappelons-le très simplement, sur un simple exemple, et je pourrais en citer plusieurs. Si Marine Le Pen avait été élue en 2017, nous serions, nous, et quand je dis nous, c'est la France, le pays dans lequel nous vivons, complices, les alliés, de la Russie de Poutine qui en ce moment est en train de massacrer un autre pays et d'attaquer la souveraineté d'un autre pays. Voilà ce qu'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est la femme politique qui va serrer des mains avec la Pologne, la Hongrie, qui sont contre le droit à l'avortement. Voilà ce que c'est. Et donc je pense que on ne doit pas non plus oublier cela. Et c'est important de le dire.
Merci Prisca Thévenot, porte-parole La République En Marche, porte-parole du candidat Emmanuel Macron. 22h29 sur Europe 1.
Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Les unes de la presse, demain matin mardi. Emmanuel Macron assure ce soir ne pas vouloir diviser le pays. Il s'apprête d'ailleurs, il s'engage à appeler tous les candidats. Eh bien, le journal La Croix, lui, regarde demain matin les trois France au lendemain du premier tour. Cette France qui apparaît coupée en trois blocs majeurs incarnés par Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de ce scrutin. Enfin des débats, se réjouit l'opinion. Macron-Le Pen, c'est maintenant la guerre des programmes. Ce sera une campagne projet contre projet, promettons dans l'entourage du président de la République. Et vous avez entendu il y a quelques instants Prisca Thévenot. Ça tombe bien, écrit l'opinion, puisque c'est exactement ce que veut la candidate RN. Le Figaro tente de comprendre comment Macron et Le Pen veulent élargir leur base électorale, placée devant la nécessité de rassembler avant le second tour. Les deux finalistes se disputent les catégories populaires et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, au risque de troubler leur soutien traditionnel. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et dans un instant, la Libre Antenne avec Sana Blanger qui vous accompagne ce soir.